Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Salut Ben, comment vas-tu? Comment vas-tu vraiment?
On est entre potes.
Les amis, je suis tellement heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entre potes. Ça faisait quoi, 8 ou 9 mois le dernier épisode? Alors ça faisait hyper longtemps que je voulais faire cette vidéo sur cette thématique, mais le vrai déclic que j'ai eu, c'est en regardant une interview de Meghan Merkel. C'est la femme du prince Harry, et donc elle répondait à une interview, et à un moment le journaliste lui demande comment est-ce que vous allez? Et c'est là qu'elle a annoncé qu'elle avait fait une fausse couche. Derrière, elle a fait tout un speech en expliquant qu'on lui posait pas souvent la question et l'importance en ce moment, dans ce contexte un peu particulier, de s'intéresser les uns aux autres et de se demander vraiment comment on va. C'est donc le sujet de cette vidéo, comment tu vas vraiment? Alors je vous ai demandé sur Instagram il y a exactement une semaine comment vous alliez vraiment et de me répondre par messages vocaux. Pour cet épisode, vous m'avez envoyé 12 000 messages vocaux dans le week-end. C'est énorme. Et comme pour le premier épisode, j'ai demandé à des copains de m'envoyer des vidéos pour me dire comment ils vont vraiment. On est sur une vidéo 100% honnêteté. On est dans un contexte où chacun essaie de composer avec tout ce qui se passe et où surtout on peut avoir l'impression d'être très seul dans sa tête, dans tout ce qui nous arrive en ce moment. Et je pense que c'est hyper intéressant, mais de toute façon c'est le but de ma chaîne globalement, de partager différentes réalités de vie et de se rendre compte qu'on est peut-être pas seul à vivre ce genre de choses. Alors on est parti sur une vidéo un peu longue, je sais pas exactement combien de temps elle va durer. Toi tu sais, en regardant en dessous, tu vois vraiment la durée de cette vidéo. Donc pose-toi vraiment, fais-toi un petit chocolat chaud, prends-toi des petits trucs à grignoter, mets-toi sous un plaid, appelle des potes, je sais pas, mais en tout cas mets-toi bien, c'est ton moment. Et alors quand j'ai annoncé que je voulais faire cette vidéo, j'ai été contacté par une association qui peut vous intéresser et au vu des nombreux vocaux que j'ai reçus, je pense que ça va en intéresser plus d'un. L'association s'appelle Nightline et c'est eux qui sont partenaires de cette vidéo et je suis hyper content de ça. C'est un service nocturne d'écoute gratuit pour les étudiants et les étudiantes. Alors c'est pas un jeu en ligne ni un VPN, donc je vais pas vous expliquer en 1 minute 30 à quel point c'est stylé Nightline. Donc j'ai demandé à Sarah, qui est une fille que je connais très bien, qui est bénévole dans l'association, d'expliquer en quoi consiste l'association, comment on appelle, quand vous appelez, sur qui vous tombez, etc.
Hello Ben, moi c'est Sarah Dott et je suis bénévole chez Nightline France. Nightline France est une association qui a été créée par des étudiants pour des étudiants et c'est avant tout une ligne d'écoute. C'est un concept qui vient des pays anglo-saxons. Et c'est lorsque notre fondateur, qui est irlandais, est arrivé en France et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de Nightline et pas vraiment d'aide pour les étudiants, surtout pour la santé mentale des étudiants, il s'est dit qu'il allait créer une Nightline française. Les personnes qui sont formées à la Hotline sont des étudiants parce que c'est un des principes fondamentaux de Nightline, par des étudiants, pour des étudiants, puisqu'on considère que c'est hyper important d'être écouté par des personnes qui nous font prêtre. Et le but, c'est de pouvoir vider son sac de manière anonyme et confidentielle. Nightline mène plusieurs actions pour améliorer la santé mentale des étudiants. Du coup, avec les deux confinements successifs et l'ambiance un peu pesante qui règne dans le monde entier, on a décidé de créer une plateforme qui s'appelle soutien-étudiant.info et qui regroupe tous les soutiens psy gratuits disponibles en France pour les étudiants. Parce que la santé mentale, c'est très important, c'est aussi important que la santé physique. Et nous, notre but aussi, c'est de déstigmatiser la santé mentale puisque tout le monde a une santé mentale, et bien plus au-delà de la santé mentale, c'est le bien-être mental, et c'est ultra important. Je pense que plus que jamais, il faut parler, il faut libérer la parole sur la santé mentale et sur ce qu'on ressent et comment ça va vraiment, c'est très important. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à se sentir pas bien, à vouloir juste discuter, c'est pas là pour juger, et c'est aussi le principe fondamental de Nightline. Chaque problème est important, et tu as le droit de parler de tout ce que tu veux. Et avec la création de la plateforme Soutien étudiant, c'est aussi pour te montrer que tu n'es pas seul et que tu as plein de possibilités, de structures qui sont là pour t'écouter. Donc n'hésite pas. En gros, tout ce petit laïus pour te dire que la santé mentale c'est très important et qu'il existe plein de structures comme Nightline ou Soutien étudiant qui soit vont t'écouter, soit te rediriger vers un soutien. Et du coup, je vais terminer avec la question qui me semble la plus importante en ce moment. Et toi, comment tu vas vraiment?
Merci Sarah et merci à des assos comme ça de me faire confiance pour ce genre de vidéo, ce genre de format. Et je le précise d'ailleurs, tu peux appeler mais il y a aussi un chat écrit qui peut être aussi plus rassurant que d'avoir quelqu'un directement au téléphone. Les amis, c'est parti, je vous propose qu'on passe tout de suite au premier vocal.
Je vais aussi parler plus spécialement des étudiants parce que je suis étudiant à l'université et je suis belge aussi. Je me débrouille pas mal, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'en cette période, c'est plus compliqué. Alors, j'ai toujours été anxieux depuis que je suis adolescent. J'ai subi pas mal d'harcèlement aussi, donc je pense que ça joue beaucoup. Pour les étudiants, c'est assez compliqué, je trouve, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas de contact, de réel contact avec notre université ou que ce soit notre école, n'importe. J'ai l'impression qu'on est derrière notre écran et que ben, c'est froid, c'est pas des contacts humains et pour certains cours, on a besoin de contact, on a besoin de retour, on a besoin d'appui. Et honnêtement, moi, ici, j'ai l'impression que je suis en décrochage scolaire complet. Il n'y a rien qui me donne de la motivation et je pense que si je pouvais tout arrêter, je le ferais. Maintenant, c'est dramatique, mais c'est un peu comment je me sens à l'instant.
J'ai reçu tellement de témoignages d'étudiants, vraiment lycée comme études supérieures jusqu'au bac plus 5. Et ouais, clairement, on est sur une vraie problématique là-dessus. Et j'ai également reçu des messages vocaux de professeurs. Et je crois que le désarroi, il est autant chez les étudiants qui arrivent pas à avoir de soutien, qui ont du mal à se motiver, à bosser chez eux. Mais le désarroi, il est également énormément chez les professeurs qui eux-mêmes, en fait, ne savent pas forcément comment arriver à tenir et gérer une classe. C'est une organisation complètement différente. Et je crois que des deux côtés, tout le monde a été un peu lâché comme ça, en mode... Si, c'est bon, l'école continue, démerdez-vous. J'ai l'impression que ça va creuser un peu les inégalités aussi de ceux qui sont déjà en décrochage scolaire et qui vont encore plus décrocher. Même si ça m'attriste énormément de voir que des bons étudiants eux-mêmes sont un peu perdus et peuvent être en décrochage. Quoi. Grosse force à vous, je sais que ce n'est qu'une période et que ça va passer, c'est ce qu'il faut se dire. Et moi, très honnêtement, qui ai quand même détesté à peu près l'ensemble de ma scolarité et qui suis vraiment pas quelqu'un d'adapté au système scolaire, je sais même pas comment moi j'aurais réagi et si j'aurais pas décroché moi-même en étant à distance. Les amis, comme je vous disais, il y a des surprises dans cette vidéo. J'ai demandé à des potes comment ça va vraiment. Et la première personne à avoir répondu à cette question, c'est une personne que j'adore et c'est quelqu'un que vous me réclamez constamment. Il s'agit de Cyrus Norse. Dernièrement, il a fait des vidéos où il parle de sa rupture amoureuse et comment il vit ça et comment il arrive à rebondir derrière. C'est hyper intéressant, je t'invite à aller voir.
Ben Nevert, what's up? Comment ça va vraiment? Faut pas poser cette question. Je sais qu'il y a 2 mois, ça allait pas. Genre, ça allait pas du tout. Et tu l'as vu, j'en ai parlé sur ma chaîne, etc. Enfin bref, ça a été une période très compliquée. Là, je suis moins dans tout ça, mais du coup, je sais pas pour autant si ça va, tu vois. Vraiment. J'imagine que oui. J'imagine que oui, parce que quand même, dans la pyramide de Maslow, ça se passe bien, quoi. Tu vois, je mange à ma faim, j'ai un toit... je subviens à mes besoins et même plus. Après, pour tout ce qui va pas, bah, je m'arrête pas vraiment dessus, en fait. Tu vois, genre, j'ai un peu cette image de, c'est comme un bateau, ça avance, tu vois, c'est sur l'eau, ça trace, et je sens que si je coupe le moteur, peut-être que je vais couler. Donc, du coup, j'avance, quoi. Donc, ça, via les projets, j'essaie de rester en mouvement. Je pense que ça ira à 100% le moment où je pourrai arrêter d'avancer et que tout aille bien. Et je crois que j'en suis vraiment pas très loin, en vrai, même si, tu vois, genre... C'est normal que tout aille pas, vraiment, tout le temps, tu vois. Ce qui compte, c'est que, pour moi en tout cas, c'est que la plupart des endroits, ça va. Oui, il y a des endroits, ça va pas. Ok, oui, mais est-ce qu'il y a des endroits où ça va et est-ce que ça te suffit pour kiffer? Oui, bon, bah, ok. J'ai quand même du mal à te répondre, tu vois, sur le « est-ce que ça va vraiment ?» À quel point tu peux être sûr à 1000% que ça va vraiment, tu vois. Que même quand tu crois que ça va vraiment, est-ce que c'est pas une fuite vers l'avant, tu vois? Est-ce que t'es pas en train de te barrer d'autre chose? Moi, je pense que pour que ça aille vraiment, c'est cool aussi de se lâcher la grappe, quoi. Même si ça va pas, c'est pas grave. Vas-y, continue de faire ton truc. Et à un moment, ça ira, tu vois. Et le moment où ça ira, tu seras tellement dans ton moment que tu prendras peut-être même pas conscience que ça va.
Franchement, j'ai tellement ce truc-là, moi aussi, en ce moment, mais je pense que je vous dirai tout à l'heure comment moi, vraiment, je vais. J'aurai une révélation aussi à vous faire par rapport à comment je vais en ce moment, parce que la plupart des vocaux m'ont demandé « Et toi, Benjamin, comment tu vas vraiment ?» Chose que je n'avais pas faite dans Nos Amours en confinement, parce que je vivais une période un peu étrange. Mais là, on est sur une vidéo 100% honnête, donc je vais vous avouer aussi un truc très honnête sur la période et répondre à une question que vous me posez souvent et que j'esquive beaucoup. Mais avant ça, on s'écoute un autre message que vous m'avez envoyé.
Pour monter mon entreprise, ça fait des années que je travaille. En dehors, à côté des cours, que je cumule les petits emplois. Parce que je viens d'une famille pauvre et donc évidemment il me faut de l'argent pour me lancer. Donc je travaille. Seulement, donc j'ai un épargne aujourd'hui que j'ai réussi à me constituer seule en plusieurs années. Et qui devait m'aider à lancer mon entreprise. Normalement il était assez grand pour pouvoir demander un prêt à la banque et lancer mon entreprise. Les banques, à cause de la crise sanitaire, demandent des épargnes beaucoup plus gros que ce que j'ai. Beaucoup, oui, des épargnes vraiment beaucoup plus grosses que ce que j'ai. Et de me dire que mon projet, ce projet de vie, parce que littéralement c'est un projet de vie, c'est cette entreprise, c'est le rêve de mon père qu'il a jamais pu faire et que j'ai décidé de réaliser pour lui. Ce projet, en fait, il tient qu'à une seule personne qui va un jour me recevoir dans son bureau et me dire oui ou non. Pour cette personne, ça va rien changer à sa vie. Il va venir, il va me dire oui ou non, il va repartir, il va m'oublier. Alors que moi, c'est le projet de ma vie et je me dis, à cause d'une crise sanitaire qui n'était même pas envisageable il y a un an, je ne pourrais peut-être jamais lancer mon projet. Et ça me tue. J'y pense... Pardon. J'y pense jour et nuit. Ça m'occupe tout le temps l'esprit. J'ai 21 ans et j'en dors presque pas la nuit. Et oui, ça me stresse. J'ai énormément d'anxiété. Et je suis pas sûre que ça aille très bien.
Franchement, dans tous les messages que vous m'avez envoyés, je suis halluciné du nombre de personnes qui ont perdu leur entreprise, ont perdu leur job. Je me doutais évidemment que la crise allait être très très compliquée financièrement, économiquement pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que c'est très invisibilisé et minimisé dans les médias. Alors moi j'ai pas spécifiquement de conseils à donner dans le sens où moi j'ai jamais fait d'emprunt à la banque pour monter mon entreprise ou des choses comme ça. Par contre, s'il y a un truc que je connais très bien, c'est les échecs. La tristesse. J'ai fait une vidéo d'ailleurs que tu peux retrouver en description qui s'appelle Mes échecs, où je vous explique le nombre d'échecs que j'ai eu dans mes projets, le nombre de fois où j'ai failli arrêter cette chaîne, le nombre de formats, notamment je fais un point sur Insomnie, mon émission France TV, le nombre de fois où ça n'a failli ne jamais exister. Dans le retour d'Entre Mecs d'ailleurs, après le confinement, dans Les Hommes ne parlent pas, j'explique aussi toute la galère financière que j'ai eue et le fait que j'en parlais pas parce que je trouvais ça hyper tabou et que j'avais honte en fait de parler de problèmes financiers. S'il y a une chose dans laquelle je crois, c'est notre pouvoir intérieur à rebondir et à avoir une énergie du désespoir folle. La plupart des projets qu'on met en œuvre ne se déroulent jamais comme prévu. Et on a tous une puissance en nous d'arriver à rebondir et à trouver des chemins de traverse. Où là on pensait que ce serait une grande ligne droite pour atteindre l'objectif, bah en fait non, il y a 2-3 petits détours, des raccourcis, aussi des chemins beaucoup plus longs. Franchement, je nous fais tous tellement confiance pour arriver à puiser en nous des moyens d'arriver à l'objectif malgré tout. Et en fait, des échecs, on en aura tout le temps, des obstacles, on en aura tout le temps. Et ce qui fait qu'on arrive à aboutir ou non sur un projet, c'est la manière dont on réagit à ces échecs. Alors, grosse force à toutes les entrepreneuses et entrepreneurs en ce moment qui galèrent, à tous les gens qui ont perdu leur taf ou alors qui sont un peu sur la sellette. Et alors, j'ai un pote que vous connaissez qui s'appelle Tanguy, qui est vraiment le gars par excellence qui va toujours bien. Vraiment, c'est la bonne humeur, l'énergie constante. Et donc, je lui ai demandé comment lui, il allait vraiment et ça fait écho à ce qu'on est en train de se raconter là.
En vérité, je réponds tout le temps, ça va, moi, tu sais, ça va toujours. Je réponds tout le temps, ça, tout le temps. On m'a toujours demandé, j'ai toujours dit, ça va tout le temps. Et je t'avoue que là, cette année, pas ouf. En vrai, pas ouf. Pas mal de galères cette année. Début d'année, j'ai rejoint un projet sur Internet qui était catastrophe, qui m'a foutu dans la sauce sur tellement de points. Et qui m'a bien coupé dans mon élan sur YouTube, sur pas mal de trucs que je faisais de projets, c'était casse-couille. Ensuite, bah, Corona. Donc je me suis fait coroner comme tout le monde chez WAM à rien faire, donc casse les couilles, surtout que à la base moi je suis danseur, Donc je danse en soirée sur scène devant des milliers de personnes et à la machine du Moulin Rouge. Je t'avais amené d'ailleurs, c'était cool. Enfin, toi, t'avais pas trop kiffé, mais moi j'avais kiffé. Ben, j'ai pas dansé depuis mars en fait, frérot, c'est casse-couille. C'est-à-dire que mon défouloir, mon exutoire, le truc qui me fait le plus de bien sur Terre, je peux plus le faire en fait. J'en arrive à m'enjailler sur des sons que j'écoute comme ça pendant que je suis en train de bosser. Ça me rappelle des trucs, j'ai des frissons, mais j'ai plus le côté je vais sur scène quoi. Donc voir des gens, danser devant des gens, transpirer et tout, faire des câlins, ça me manque tellement. Ça me manque tellement, mec. Après j'ai eu mes problèmes de foie. Pour ceux qui savent déjà, on en a parlé un peu, mais je suis obligé de manger mieux et de m'occuper de tout ça. Mais du coup, le corona m'a baisé sur le boulot, et donc du coup, j'ai dû reprendre un taf. J'ai dû reprendre un taf que je faisais avant d'économiste, où je gère des projets, des gros projets d'un point de vue économique, parce que j'ai plus de thunes. Parce que j'ai plus de thunes et j'ai pas de perspective d'avenir avec le corona. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir redanser, re-bien bosser, re-tout ça. Donc du coup, ben, je suis obligé de passer au plan B, quoi. C'est pas le top, en vrai, cette année 2020, mais ça va. Ça va. Au final, tout va toujours bien. Tu vois, ça pourrait toujours être mieux, mais tout va bien. Voilà. Bref, bisous mon pote. Bon courage à tout le monde. Ciao.
Alors oui, Tanguy, il parle de ses problèmes de santé dans le dernier entremets sur les cosmétiques, que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Et je trouve ça fou quand même parce que Tanguy, on est bons potes, et il a mis énormément de temps à me dire qu'il avait repris un taf alimentaire en fait. Il n'y a aucune honte si c'est le cas pour vous, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vraiment, ça fait vraiment du bien de juste en parler et de se libérer d'un poids ou d'une culpabilité qu'on a à l'intérieur de soi.
Salut Ben, pour te parler un petit peu de la situation actuelle, du coup moi je suis intermittent du spectacle, donc j'ai pas travaillé depuis février, ce que je ressens en ce moment c'est beaucoup de colère et d'incompréhension. En fait je suis quelqu'un qui suis assez positif et calme habituellement, et qui va pas forcément se déplacer en manifestation, et en ce moment on m'enlève en fait mon métier, donc je pense qu'à la situation, je pense qu'à la suite, et je sens que psychologiquement ça va, j'ai plein de projets qui se développent. J'ai des occupations, j'ai plein d'inspirations, ça manque pas. Mais je suis toujours en train d'essayer de penser à la suite, imaginer la précarité qui va arriver à partir de août 2021, où du coup on n'aura plus aucun salaire, puisque bah, jusqu'à août c'est les droits qui sont repoussés, mais sauf que bah, le spectacle ne reprend pas, quoi. Donc du coup ça augmente mon addiction à la nourriture, puisque je suis assez addict à la nourriture, donc je le vois par ça en fait, c'est mon corps surtout qui réagit. Voilà, si je devais résumer en fait par deux petites phrases, ce serait mes rêves saignent mais mon art est en essor. Et une très jolie citation que j'ai vue il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, c'est drôle ce monde où les gens s'arrêtent de vivre de peur de mourir.
L'addiction à la nourriture, mais je crois qu'il y en a tellement qui vont s'y retrouver, et moi le premier. Je fais partie de ces gens qui mangent de stress, où je suis obligé de combler par la nourriture. Je n'ai pas faim, mais j'ai envie de manger. Voilà, c'est ça le truc. Avant de passer à la prochaine surprise, je voulais faire un point avec vous sur comment moi je vais vraiment, et je voulais vous parler de quelque chose dont je n'ai pas parlé encore. Donc je vais pas vous parler des problèmes d'argent que j'ai eu suite au premier confinement, parce que juste après ça, voilà, j'ai décidé de partir sur le rythme de une vidéo par semaine, et ça a vraiment payé. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est génial. J'arrive à avoir des partenaires comme aujourd'hui qui arrivent à sponsoriser mes vidéos, qui arrivent à payer toute mon équipe quand on est en plateau, là aujourd'hui qui arrivent à payer les gens, notamment mon frère qui est là et qui fait toutes les animations que vous voyez, c'est lui, c'est mon frère. Là je suis à Paris, lui il est chez WAM en Normandie. Et donc voilà, ça arrive à faire vivre toute l'équipe, à me faire vivre moi, et ça c'est génial, franchement je suis tellement reconnaissant et je me sens tellement privilégié de pouvoir vivre aujourd'hui de ma passion. Mais il s'est passé quelque chose il y a pas longtemps, et je pense que voilà, s'il y a une vidéo dans laquelle je peux en parler, c'est bien celle-ci. Sur Entremets, on a eu un rythme qui était assez dense, avec une vidéo par semaine, où c'était quand même beaucoup du Entremets, même s'il y avait mes autres émissions. Je pense que certains s'en doutent, mais j'en ai pas parlé publiquement, c'est quelque chose que Toto a eu beaucoup de mal à vivre, ces derniers temps, et il est venu me voir il y a quelques mois pour me dire, écoute, je pense que je vais quitter Entremets parce que aujourd'hui c'est un poids qui est pas évident, et on a tous des choses à régler avec nous-mêmes. Aujourd'hui j'ai besoin d'un peu de souffler en fait. En vrai, évidemment, je m'en doutais un peu. Il y a eu quelques commentaires où même vous étiez aperçu que Toto était moins présent sur les derniers épisodes où il était là autour de la table. Et donc j'ai évidemment eu deux questionnements. Soit on arrêtait Entremets parce que c'était la même team depuis le début, depuis un an, et que c'était pas envisageable de le faire sans eux. Ça, je l'ai très franchement envisagé. Et rapidement, je me suis dit que Entremets, ça devait exister bien au-delà de juste des personnes et qu'on défendait une cause qui allait bien au-delà de juste Omar, Toto et moi. Donc franchement, je l'ai vécu un peu comme un échec au début et j'ai eu un peu peur que ce format s'arrête complètement. Et après, j'ai eu le parti pris de me dire transformons ça en positif et ouvrons la série à plein d'autres mecs. Donc c'est pour ça que vous voyez plein de nouvelles têtes en ce moment sur les derniers épisodes de Entre Mecs. Donc oui, je vois vos commentaires qui demandent où sont passés Toto et Omar, même si dans l'ensemble, vous adorez les nouvelles personnes qui viennent et le fait que soit un peu différent à chaque fois. On s'ouvre à d'autres masculinités, d'autres profils, et moi franchement je prends un plaisir énorme à animer cette émission. Donc voilà, en vrai vous savez la vérité, je savais pas trop à quel moment l'annoncer, comment le dire, je pense que c'était le contexte parfait pour vous l'annoncer. La porte est clairement pas fermée, Omar je sais qu'il est toujours très très chaud, donc on le reverra sur la chaîne, ça c'est clair. Toto a besoin d'un peu de temps, d'un peu de calme. Je vous inviterai d'ailleurs à pas trop le solliciter sur Instagram après cette vidéo, c'est clairement pas le but. Mais la porte de cette chaîne lui est toujours grande ouverte, évidemment. Bien, je finirai juste en disant que en ce moment, la progression de la chaîne est énorme. Moi, je prends trop de plaisir, j'ai grave d'idées aussi. On développe de plus en plus Tartine de Vie aussi, et ça vous plaît de ouf, donc ça, c'est trop bien. J'ai plein d'idées, plein de surprises pour la suite. J'espère que ça va vous plaire. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne chaque semaine. Je suis hyper fier qu'une chaîne, au-delà du divertissement, qui est une chaîne qui amène à la réflexion, à l'ouverture d'esprit, à s'intéresser aux différentes réalités de vie de chacun, puisse trouver une audience aussi forte. Donc vraiment, merci d'être là. Maintenant, j'ai une surprise pour vous. C'est une personne que vraiment j'adore et qui, pour moi, représente la positivité sur YouTube.
Je vous avoue que si ça tenait qu'à moi, je vous aurais dit... Tranquille les gars, la vie est belle, franchement tout va bien, début du mois de décembre, le mois de Noël, trop cool. Mais Ben m'a dit, Juju, le but de cette vidéo c'est d'être à 100% honnête, histoire d'être transparent en fait, et de sortir un peu de ce côté, pas hypocrite, mais le côté sur les réseaux où on dit toujours que tout va bien, où on montre toujours que tout va bien, et... Peut-être d'une part pour se préserver, peut-être aussi pour vous partager un maximum de good vibes tout le temps. Il y a plein de raisons en fait. Moi typiquement, je déteste montrer sur mes réseaux que j'ai des petits coups de mou ou que ça va pas toujours bien parce que je suis comme tout le monde, je suis humaine et forcément il y a des moments plus difficiles que d'autres. Et on vit des choses parfois difficiles aussi, seulement on le montre pas forcément. Pour ma part, si je le montre pas, c'est parce que sur mes réseaux, mon but, en fait, c'est juste de vous partager du positif tout le temps, des good vibes tout le temps. Et je me dis que vous avez déjà suffisamment de choses peut-être difficiles, vous, dans vos journées, dans vos vies. Et le but, c'est pas que j'en rajoute une couche. Le but, moi, c'est que je vous fasse penser à autre chose, que je vous donne le sourire, que je vous fasse rire, que ce soit parce que je le décide ou parce que je suis un peu gênante parfois, je sais. Mais voilà, c'est ça, en fait, que j'aime partager sur mes réseaux. Seulement, je sais que parfois aussi, ça peut faire du bien et ça peut être important de vous dire les choses en fait telles qu'elles sont, de vous montrer un peu la réalité et de vous dire que, bah non, pour nous aussi, c'est pas toujours facile. Moi, c'est pas évident pour moi d'être loin de mes proches. J'ai une petite nièce qui a tout juste fêté ses 4 ans. C'est pas facile de se dire qu'elle profite pas de sa tata, de se dire qu'elle crée pas de souvenirs avec moi, qu'elle passe pas de moments avec moi. Après, je suis pas à plaindre. Ce que je veux dire, c'est que ma famille va bien, je vais bien. Alors ouais, j'ai eu le coco les gars, mais je m'en suis bien tirée. Mais il y a des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'aime pas parfois montrer ou dire que ça va pas. Parce que j'estime que j'ai pas du tout à me plaindre par rapport à plein de personnes. Et que je suis pas légitime en fait, entre guillemets, d'avoir des coups de mou. Et que je devrais pas en avoir. Dans mon métier, le confinement, ça a été difficile... pour le côté comparaison. En fait, les réseaux sociaux, on va pas se plaindre parce que on a pu travailler pendant le confinement. On a eu la chance, par rapport à beaucoup de personnes, de pouvoir maintenir nos activités professionnelles, de pouvoir travailler, de pouvoir vous proposer du contenu sur les réseaux et justement de faire en sorte de vous changer les idées un maximum et de vous proposer des choses à la fois divertissantes, dans mon domaine aussi des choses qui vous permettent de bien manger, de faire du sport. C'est vrai qu'on le dit pas souvent, les gens pensent que les réseaux sociaux... c'est la super entente, que tout le monde s'entend hyper bien, que personne se compare, que personne se juge, que tout le monde est copain, etc. Mais la réalité, c'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'on a beau bien s'entendre, ben, on est en compétition avec certains, on se compare à certains, et c'est une grosse source de stress qui est pas facile à gérer. Pour moi, ça a été assez difficile. Je me suis remise en question à peu près tous les jours sur mon contenu, sur ce que je proposais, sur ce que je devais faire. Je me rabaissais un peu tous les jours. J'avais l'impression de jamais faire assez et de jamais faire assez bien. C'est voilà, une période qui est difficile pour différentes raisons pour nous tous. Et moi aussi, j'ai des coups de mou. Moi aussi, j'ai des moments plus difficiles que d'autres. Donc oui, ça va. Mais oui, il y a des moments où ça va pas. Et où, heureusement, que j'ai des proches suffisamment solides et qui me soutiennent suffisamment pour me remettre les idées en place. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez des petits coups de mou, les gars, n'hésitez pas à prendre du recul, à souffler un petit coup, à parler aux personnes qui vous sont le plus proches et dont vous avez le plus besoin, qui savent vous dire les choses, pas forcément les choses qui font du bien, mais les choses que vous avez besoin d'entendre. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous. Merci Ben pour ce petit passage dans ta vidéo. Restez fort parce que je sais qu'on ressortira tous beaucoup plus grands de tout ce qui s'est passé et je vous aime.
Un grand merci à toi et d'ailleurs un grand merci globalement à tous les gens qui ont accepté de participer. Parce que je rappelle que c'est le week-end dernier que vous m'avez envoyé des messages, donc on sort ça en une semaine top chrono. Pour ceux qui suivent mon émission Insomnie sur France TV / Juju fait partie des prochains invités dans Insomnie, et franchement c'est une meuf géniale qui subit énormément de préjugés et de clichés sur YouTube, comme beaucoup. Mais c'est vraiment une meuf que j'adore, et cet épisode je l'attends avec impatience, et j'ai très hâte d'avoir vos retours parce que je trouve qu'on la découvre vraiment telle qu'elle est. J'en profite d'ailleurs, en parlant de compétition entre youtubeurs et youtubeuses, sachez que j'adore Ken Kojandi et que j'adore McFly Carlito. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en disant « Bon bah voilà, Kian, vous sortez à peu près les mêmes contenus quand moi je sors du Tarsine de vie, c'est à peu près la même durée, la même ambiance, etc. On sort le dimanche soir en plus, donc c'est à peu près pareil. Et quand McFly et Carlito ont sorti la table ovale, où ils sont quatre mecs autour d'une table qui parlent de paternité, beaucoup de gens ont dit « Ah mais c'est un peu entre mecs, nanana, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes pas en conflit, etc. » Il n'y a aucun souci, et pour moi, plus il y aura de gens qui vont créer du contenu ouvert d'esprit, de discussion, qui amène à de la curiosité de d'autres réalités de vie, plus ça trouvera un public, plus le public sera éduqué à regarder ce genre de choses. Donc pour moi, en fait, c'est trop cool qu'il y ait d'autres gens qui le fassent aussi.
Moi, je crois que là, tout de suite, dans ma vie, ça va pas trop. J'ai emménagé dans un appart le mois dernier avec une de mes meilleures potes, et elle s'est barrée il y a 2 jours en prenant toutes ses affaires parce que on s'est pris la tête d'être ensemble. Donc là, je me retrouve toute seule dans cet appart, sans ce 30 mètres carrés, tout sombre et tout ça, enfermé. C'est un peu la déprime. Je me sens hyper seule en ce moment, vraiment une immense solitude. C'est assez accablant et il n'y a pas vraiment de raison à ça. Je sais pas, c'est un truc de climat. Et je me dis, putain, mais moi, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans depuis un mois et j'ai pas envie d'avoir 20 ans en 2020, en fait. Autant vis-à-vis du confinement et du Covid que surtout vis-à-vis du futur, de tous ces trucs de loi de sécurité globale, du problème des universités, de nos libertés de base, de l'expression, de l'art, de la culture qui sont en train de se faire défoncer en ce moment. Et ça me déprime au plus profond de moi-même.
Je crois que ce sentiment de solitude, c'est un truc qui est revenu énormément. Le truc de dire, bah même les gens qui travaillent, je vais au boulot, je rentre chez moi, je suis tout seul, je peux pas avoir de potes, j'ai pas forcément la famille à côté, etc. Je pense que plus que jamais, on a besoin de niquer complètement ce sentiment de solitude. Et encore plus en ce moment où évidemment, bah on a perdu tous les rituels de pouvoir aller voir la famille, les potes, etc. Franchement, je vous engage, après avoir regardé cette vidéo, ou même pendant, là, vous pouvez le faire pendant, et moi je vais le faire vraiment à la fin de cette vidéo, contactez au moins 3 potes où vous avez pas pris de nouvelles depuis longtemps, contactez-les et demandez-leur comment tu vas vraiment. Pas juste le « ouais, ça va ?»« Ouais, tout roule et toi ?»« Bien ?» Fin de la discussion. Non, non. Vraiment, comment tu te sens ? Comment tu te sens en ce moment ? Juste ça, et en fait, franchement, vous allez voir à quel point c'est libérateur et à quel point, en fait, il y a plein de potes où on a l'impression qu'ils vont très bien et juste, personne leur pose vraiment la question. Le prochain invité, c'est un mec que j'adore. Je vais dire ça pour tous les invités, d'accord ? Il n'y a aucun souci. Je suis le bisounours de YouTube, comme m'appellent les haters. Il s'appelle Théo Grosjean, c'est un illustrateur que je vous invite à aller suivre tout de suite sur Instagram. Je pense vraiment que son taf va vous plaire. Vous pourrez suivre les aventures de l'homme le plus flippé du monde, qui est inspiré de lui-même, en fait. Et donc, il traite de l'anxiété, des crises d'angoisse qu'il peut faire, du fait qu'il est flippé, hypochondriaque, etc. Et donc, je lui ai demandé, mais mec, comment tu vas vraiment, toi, en ce moment ?
Le deuxième confinement est un peu plus facile, pour moi en tout cas, à gérer émotionnellement, parce qu'il y a moins la surprise du virus qui débarque comme ça. et qui un peu sans prévenir, on connaît pas, on sait pas trop. Voilà, il y a un peu plus de recul en fait, donc c'est plus, je trouve, un peu plus facile à gérer. Après, je pense aussi sur le contre-coup de ça, c'est un peu la longueur. On a l'impression que ça va jamais finir et que ça, c'est un petit peu anxiogène. On a l'impression qu'on change un peu de monde et de façon de vivre. Il y a un côté un peu fatalité définitive qui est un peu flippant. Bon, après, moi, honnêtement, dans ma vie personnelle, vu que je suis illustrateur, ça change pas énormément, en fait, parce que je continue de travailler chez moi. Je sors peu, de toute façon. Donc, voilà, ça a pas bouleversé mon mode de vie, mais c'est quand même, ça reste quand même très difficile, surtout au niveau des, souvent quand on est auteur, on a l'habitude des festivals à une période où sort le livre, où on rencontre un peu les lecteurs et c'est sympa. Et du coup, cette période-là, bah, n'a pas été possible et voilà, ça a été un peu dur, je pense, pour tous les auteurs qui, en plus, sont généralement assez isolés. Je suis quelqu'un de très anxieux, comme les gens qui me suivent le savent assez bien avec ma série L'homme le plus flippé. Et du coup, en fait, il y a un petit côté aussi où j'étais un peu préparé, entre guillemets, à ce genre de problème. Déjà, mentalement, en fait, je m'étais préparé à tout un tas de catastrophes qui pouvaient arriver. Et du coup, finalement, ça, il y a limite un petit côté un peu, je vous l'avais dit, ça allait arriver. Enfin, voilà, qui d'ailleurs est très agaçant et un peu égocentrique, mais qui est vrai. Et du coup, enfin, tu sais, c'est un petit peu comme les hypochondriaques qui ont très peur d'attraper une maladie. Et en fait, ils ont plus peur de la peur, en fait, de la maladie que de la maladie elle-même. Et souvent, quand ils découvrent qu'ils ont vraiment une maladie ou qu'on met un mot sur leur souffrance, ça arrive qu'ils soient soulagés parce qu'en fait, au moins, ils sont compris. C'est un petit peu le même principe, je pense, même si c'est un peu différent. Alors après, je parle pour moi, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont anxieux et qui sont encore plus mal avec cette situation, mais moi, ça me fait un petit peu ça, j'ai l'impression. Et en fait, c'est pas tout à fait pareil que l'anxiété que je ressens plus au quotidien, parce que justement, l'anxiété, souvent, c'est un truc assez isolant, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être le seul à vivre ce qu'on vit, et c'est ce qui le rend difficile à vivre, je trouve, le fait d'avoir du mal à l'exprimer ou de pas forcément réussir à être compris. Et du coup là c'est un peu différent parce que tout le monde vit la même chose et tout le monde est à peu près la même échelle, donc on peut plus se soutenir. Voilà, après c'est encore une fois c'est mon point de vue quoi, c'est pas c'est comme ça que je le vis personnellement. Bah du coup j'espère que ça va bien et que tous tes abonnés vont bien aussi et surtout prenez soin de vous.
Est-ce que honnêtement on n'a pas tous envie d'être un peu pote avec Théo Grosjean?
Salut Ben, alors pour répondre à ta question, moi je suis confiné avec mon frère et sa copine, et puis ben on n'a pas du tout le même mode de vie. J'ai l'impression que eux ils arrivent à s'appuyer l'un l'autre, et puis moi du coup comme j'ai personne sur qui m'appuyer, je me suis réfugié dans l'alcool et dans ma chambre de 9 mètres carrés pour essayer d'aller un peu mieux, et puis ça va pas mieux en fait. Mais maintenant c'est trop tard, j'arrive plus à sortir de l'alcool. En plus de ça, j'ai des profs qui ont disparu de la surface de la Terre, j'ai l'impression. Et du coup, bah, pour la fin du semestre, ça va être compliqué pour les partiels. Et il y avait une fille qui me plaisait bien à la fac. Et bah, du coup, je la reverrai pas avant février. Du coup, bah, non, ça, pour répondre à ta question, ça va vraiment pas du tout.
Alors évidemment, je suis pas un professionnel de santé, mais pour tout ce qui est addiction, n'ayez pas peur de vous faire aider, il y a tellement zéro honte de faire un appel à l'aide, et surtout, il n'est jamais trop tard. Se dire « Ah ok, je suis tombé dedans, c'est terminé », ça n'existe pas. Et les gens qui habitent sous le même toit, si vous êtes en famille, si vous êtes en coloc, franchement, venez arrêter la vidéo maintenant, je m'en fous de mon watch time, allez juste demander aux gens qui habitent dans la même maison que vous, comment tu vas? Comment tu te sens? Est-ce que ça va? On se pose 5 minutes, on discute? Parce que finalement, c'est pas parce qu'on habite ensemble que forcément on communique tout le temps. Et des fois, c'est même l'inverse. Des fois, c'est les gens qui habitent ensemble et qui se voient vraiment tout le temps qui communiquent le moins. Franchement, force à toi, mec. Et pour tous les gens qui sont tombés dans des addictions et des merdes comme l'alcoolisme, sachez que ce n'est pas trop tard. Il n'y a pas de point de non-retour. Si vous vous en rendez compte maintenant, n'hésitez pas justement à agir parce qu'en fait, c'est exactement maintenant qu'il faut le faire. Je vous rappelle, Nightline, si vous avez besoin de parler, si vous êtes seul, n'hésitez vraiment pas à appeler. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir dit dans les vocaux, écoute, même si je passe pas dans la mission, même si tu l'écoutes pas, le fait d'avoir formulé et d'en avoir parlé, ça m'a libéré d'un truc. Donc, parlez-en, juste parlez-en. Juste en parler, pour moi, c'est la première étape de la libération. Et moi, le premier, j'étais en mode, franchement, j'ai pas besoin de ça, etc. Et finalement, en fait, on accumule à l'intérieur. Et souvent, quand ça explose, malheureusement, tout explose d'un coup. Alors que si on sort les choses au fur et à mesure, c'est beaucoup moins douloureux. Excusez-moi, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir des nouvelles d'un membre du Sea Gang ?
Comment ça va vraiment ? MDR, non ? Cette question. MDR dans le sens où, genre, personne ne répond jamais honnêtement à cette question, tu vois. En société, en tout cas, parce que quand t'es avec tes amis proches, c'est plus facile d'être en mode, genre, non, ça va pas. Mais en promo, en société, au taf, c'est genre, tu réponds à cette question en mode genre, bah ça va. Ça va, mais, tu vois, mais tu dis toujours ça va. Moi, en ce moment, ça va pas de ouf. Et je pense que c'est hyper important d'en prendre conscience, de faire de la place à ce mal-être. Je sais pas trop comment on dit, mais... Et aussi d'accepter que parfois on a toutes les conditions pour être bien et qu'on l'est pas et que c'est pas vraiment un choix et que ça se passe beaucoup dans la tête, même si évidemment il y a des facteurs qui font que c'est plus facile d'aller bien et qu'il y a des vies qui sont plus faciles que d'autres. Mais moi j'ai du mal avec les transitions, et en ce moment c'est une transition dans ma vie, c'est la fin d'un cycle, le cycle de mon album Les Failles. Et c'est le début de quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Et j'avoue que c'est assez dur pour moi de pas savoir dans quoi je vais me retrouver. Sachant que la pandémie, ben, ça empêche pas mal de se projeter. Donc ça va pas trop. Et c'est ok, tu vois. Genre, ça va mieux dès que tu te dis que c'est ok de mal aller. Et qu'il y a aussi des solutions. Quand tu vas pas bien, il y a plein de choses qui aident. Donc, ouais, il y a des moments où ça va. Dans ma vie, je veux dire en général, parce que comme j'écris des chansons ultra tristes, tu vois, les gens, ils doivent un peu se demander si des fois ça va. Mais des fois, ça va de ouf. Mais en ce moment, ça va pas de ouf. Je suis hyper anxieuse, je suis hyper triste. Je me sens à la hauteur de rien, tu vois. Mais je sais que ça va passer. Mais j'espère que les gens sont OK avec ça, avec le fait d'aller mal. Parce que culpabiliser quand tu vas mal, bah c'est pire. Et ça, on veut pas de ça. Tu vois ? On veut embrasser notre mal-être et en faire quelque chose de beau.
Ça, c'est quelque chose qui revient énormément, le « Oh, franchement, oui, j'ai des problèmes, mais je peux pas me plaindre parce que franchement, moi, ça va. » Ça pourrait être pire. Bah franchement, ouais, mais en fait, ça pourrait toujours être pire. Et s'il y a vraiment un message qu'il faut faire passer... c'est il n'y a pas de petits problèmes. Et souvent, des petits problèmes, s'ils sont pas traités directement, peuvent devenir des énormes problèmes par la suite. La crise de la quarantaine, vous connaissez ? Donc n'ayez pas peur de vous sentir légitime à ne pas aller bien. C'est ok. Et surtout, si vous n'allez pas bien, ça fait pas quelqu'un de vous qui, par définition, est une personne qui ne va pas bien, d'accord ? On a tous des moments où on va bien, où on va pas bien.
Alors moi, je t'envoie ce message parce qu'en fait, je suis... dans l'incapacité de te répondre. Voilà, à plus, bonsoir. Non, c'est surtout parce qu'en fait, je suis dans un entre-deux que je n'arrive pas à qualifier. C'est-à-dire qu'à la fois, je vais vraiment bien, parce que je fais des études de folie. Mes profs gèrent à mort le distanciel, on fait des cours incroyables, c'est vraiment trop trop bien. Je suis confinée avec mon copain et ça se passe du mieux possible, vraiment, la meilleure vie du monde. Je parle avec beaucoup de gens, je reparle avec des gens à qui je n'avais pas parlé depuis très longtemps, et ça fait vraiment du bien, et je suis contente. Je fais du sport, je me sens bien dans mon corps, voilà, tout va bien, quoi, finalement. Mais pourtant, la santé mentale, je suis pas forcément. Et c'est assez étrange, parce que tu te dis que tu t'entends bien avec ta famille, t'as un copain, tu fais des études qui te plaisent, t'as ton appart, etc. Et pourtant, le mental, je sais pas. Et c'est assez bizarre parce que quand on parle de santé mentale défaillante, on va sûrement penser au fait que tu vas pas bien parce que t'as vécu un deuil, parce que t'es en pleine rupture, parce que t'as eu un traumatisme, etc. Mais pas de la santé mentale quand tu vas bien et pourtant que le psychique ne suit pas. Et c'est vraiment un sujet particulier parce que tu te sens pas légitime de pas aller bien alors que dans ta vie, tout va bien, justement. Et les gens te croient pas et te prennent pas au sérieux. Et ça, c'est un gros sujet, le fait de ne pas être pris au sérieux. Par exemple, je ne sais pas si je suis hypersensible, mais dans tous les cas, c'est que je suis toujours dans les extrêmes concernant mes émotions. Quand je suis triste, je suis extrêmement triste. Je hurle, je pleure, je me fais mal, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour me détruire finalement. Et quand je suis heureuse, je suis surexcitée, je vais vraiment très bien, je saute partout, etc. Et en fait, du coup, cette hypersensibilité fait que je suis aussi très sensible à tout ce qui est son. Et en fait, en ce confinement, je n'écoute que les mêmes sons d'ordinateur, les mêmes sons de déglutition de mon copain quand il mange, quand il boit, le son de se gratter, etc. Et je ne supporte plus rien, c'est-à-dire que je suis en constante overstimulation, je dirais, surstimulation constante qui fait que je passe mon temps à pleurer parce que j'ai mal, parce que les sons font mal, parce que tout me fait mal, j'arrive pas à trouver le silence, j'arrive pas à trouver la paix, j'arrive pas à trouver la sérénité, en fait, ce qui est assez étrange parce que tout va bien à côté. Je fais beaucoup de crises d'angoisse, alors qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de raison. Je fais des crises noires, ce que j'appelle les crises noires. C'est des moments où le désespoir est tellement profond que je ne ressens plus rien. Donc la seule manière pour moi de m'en sortir, c'est de me faire mal, de me taper, de me couper, de me griffer. Et encore une fois, je ne me sens pas légitime de ressentir ça parce que je vais bien. Ma vie se passe parfaitement bien. Donc c'est assez spécial comme sentiment d'en arriver à se faire mal alors que finalement, tout va très bien.
Moi, je sais que j'ai mis très longtemps à comprendre que ce qui était important ou impactant dans ma vie n'était pas forcément les mêmes chez les autres. Je vous donne un exemple très concret. Vous perdez un animal de compagnie. Si vous êtes vraiment au bout du bout de votre vie, comme si vous aviez perdu un membre de votre famille, vous allez avoir des gens qui vont complètement comprendre et qui vont être en mode « Oh là là, ma pauvre, mon pauvre, ma pauvre, etc. » Et vous allez avoir des gens qui vont réagir tout autrement et qui vont dire ça va, c'est un animal, tu vois, c'est pas non plus un être humain, on va se calmer, tu vois, il fallait qu'il meure à un moment de toute façon. C'est vraiment une leçon que j'en ai tirée, c'est ne minimiser jamais les problèmes des autres parce qu'ils n'ont pas la même place chez les uns que chez les autres. C'est français ce que je viens de dire ? Un truc qui peut ne pas vous paraître important va l'être énormément pour d'autres. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi avoir un sentiment d'incompréhension quand vous avez un problème qui vous paraît énorme et que les autres vous disent « Ouais, ça va, il y a plus grave dans la vie quand même. » Donc voilà, venez, on s'écoute les uns les autres et on accepte que des gens puissent aller mal pour des raisons qui nous paraissent futiles à nous. Parce qu'on est tous extrêmement contents que des gens puissent nous écouter quand il nous arrive des problèmes qui peuvent, eux, leur paraître futiles. Et alors tout à l'heure, on a eu un vocal qui nous disait « Je n'ai pas envie d'avoir 20 ans en 2020 » et j'ai une amie qui, à la vingtaine en 2020, Dejna, comment toi tu vas ?
Ça va dans le sens où je ne suis pas toute seule, alors que je sais qu'il y a des gens qui sont tout seuls. Ça va dans le sens où j'ai un toit, j'ai de quoi manger, donc il y a pire quoi. Ça va dans le sens où j'ai mon copain, je suis pas malheureuse, j'ai mes amis et tout, j'ai mes abonnés. Je kiffe faire mes vidéos, faire mes lives. Ça va pas dans le sens où je suis loin de ma famille. Et c'est un petit peu dur à vivre parce que j'ai toujours été très proche de mes parents, vu que je suis fille unique. La santé de ma famille, ça va plus ou moins aussi, mais c'est surtout le fait de pas pouvoir les voir, pas pouvoir m'occuper d'eux, d'avoir un peu l'appréhension de « il peut leur arriver quelque chose et je ne peux rien faire s'il se passe quelque chose, je suis loin d'eux, donc s'il se passe quelque chose, c'était la dernière fois que je les voyais, il y a 2 mois, 3 mois, tu vois, et c'est ça un peu qui fait peur, qui me terrorise un petit peu sans mytho. » Après, si je peux donner un conseil, on a instauré un petit rituel aussi avec mes potes, c'est qu'on se retrouve sur Discord pour faire des soirées, vu qu'on ne peut plus faire de soirées en vrai. Même si on le faisait déjà un petit peu avant, en fait, maintenant, on fait des soirées sur Discord où on fait des jeux comme si on était tous ensemble. Genre, on fait des jeux, on papote et tout, on regarde des films, on fait des soirées films aussi. Et ça nous rapproche et ça permet aussi d'éviter à ceux qui sont vraiment seuls chez eux d'être seul tout court, ça permet d'éviter un peu la solitude. Pendant le premier confinement, ça m'a beaucoup aidée parce que le premier confinement, j'étais vraiment toute seule. Là, je vois bien la différence. Au final, c'est le fait de ne pas pouvoir sortir qui est un peu pesant, mais ça va. En vrai, je pense que ça va.
Franchement, aujourd'hui, la grosse force d'Internet, c'est qu'on peut garder du lien, même si physiquement, on est seul. Alors, n'hésitez pas, mais trop bon tips. Si jamais vous voulez créer des Discord, mettez-les dans les commentaires. Si vous voulez laisser votre Skype, faites des discussions. Franchement, les gens qui sont seuls, là, qui regardent cette vidéo, Mais retrouvez-vous entre vous, c'est trop bien. Le prochain vocal, je crois qu'il parle de crise d'angoisse. On a commencé à en parler avec le vocal d'avant et c'est énormément revenu. Pendant cette période-là, ces derniers mois, il y a énormément de gens qui ont découvert les crises d'angoisse, qui se disaient « ouais, c'est pas pour moi, nanana », et qui, en fait, quand ça arrive, ils ne savent pas forcément ce que c'est.
Personnellement, ce deuxième confinement, il a été très, très, très compliqué mentalement. Parce que je suis passée d'une activité où je bouge toute la journée, où j'ai des choses physiques à faire, où je vois du monde, où je suis debout tout le temps, à en gros de la saisie de dossier sur Excel en étant chez moi. Voilà, les relations humaines, je sors beaucoup, je suis quelqu'un qui a besoin de voir ses amis et ses proches, et là, de rester chez moi, c'était encore une fois compliqué. Donc je me suis mise à faire des crises d'angoisse pour la première fois de ma vie, j'ai 25 ans, c'était la première fois de ma vie que je faisais des crises d'angoisse. Donc c'est en cours de résolution, j'ai trouvé des petits tips, comme on dit, pour me calmer. Mais malgré tout ça, dans l'ensemble, j'essaie de relativiser un maximum parce qu'en fait, bah, j'ai continué à travailler, j'ai continué à avoir mon salaire en entier, j'ai un toit et à manger un minimum. Donc je pense que je n'ai pas à me plaindre, qu'il y a des gens qui en chient beaucoup plus que moi, mais ça a été mentalement, en tout cas, très compliqué.
Ah non, mais alors clairement, tu peux pas dire que t'as trouvé des tips et ne pas donner les tips. Je propose qu'on retrouve cette personne sur Instagram, bon, on peut pas finir là-dessus. Hello, c'est grave intéressant ce que tu me dis là, parce que moi aussi, moi j'ai découvert les crises d'angoisse, crises d'anxiété, à un moment de ma vie où j'allais pas hyper bien, où j'étais un peu stressé et je voyais pas forcément d'où ça venait. Et donc j'étais pris de tremblements, j'avais chaud, j'avais froid. En plus moi je suis hémétophobe, donc j'ai peur de vomir et j'ai peur de voir des gens vomir. Donc j'anticipe, c'est la peur de la peur quoi. Et du coup bah moi ça me donnait des symptômes de nausée et tout, donc je croyais que j'allais vomir. Donc en fait c'était le vieux cercle vicieux, j'étais pris de tremblements et tout. Et je me suis rendu compte que juste en me concentrant sur ma respiration, en fait bah c'était des symptômes que je me créais moi-même. Est-ce que toi tu as des tips? Je sais que tu les as parce que tu l'as dit en fait. Est-ce que tu peux me donner tes tips à toi et nous donner, parce que là t'es en direct dans cette vidéo, est-ce que tu peux nous donner tes tips?
Je suis trop contente que tu m'aies répondu, putain je m'y attendais tellement pas. Je suis joie et bonheur. Alors moi mes tips c'est, j'ai un chat, donc je fais des câlins à mon chat déjà, parce que les animaux ils ressentent beaucoup 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 quand on est angoissé, et moi je sais qu'ils me collent énormément quand je vais pas bien, donc je lui fais des câlins. J'écoute des bruits de vagues, ça me détend énormément. J'utilise de l'huile de CBD également, que je mets sous la langue, c'est pas hyper bon, mais ça détend.
C'est légal, hein.
Et j'ai essayé la méditation, pas du tout pour moi, mais vraiment, tu vois, de me concentrer sur le bruit des vagues, j'arrive un petit peu à me calmer, et surtout, je mentalise que je suis sur une plage, dans un hamac avec un cocktail en train de bronzer, tu vois. Ça, c'est mon tips. Et puis, aller marcher, prendre l'air, sortir un petit peu de chez soi. Et ouais, aller marcher aussi. Et écouter de la musique. La musique, c'est trop la vie aussi.
Trop bien, merci à toi. Et je vous le rappelle, on n'est pas experts. Hein. C'est-à-dire que nous, c'est un peu les trucs qu'on a trouvé pour nous sauver, nous, de situations. Mais justement, j'ai une pote à moi qui s'appelle Dia, qui est psychologue, et je lui ai demandé de nous expliquer ce que c'est une crise d'angoisse, et je crois qu'il y a aussi une crise de panique, qui sont deux choses différentes, et comment on peut sortir de ce truc-là. Alors je suis désolé, pendant qu'on va regarder la réponse de Dia, je vais faire un truc qui n'est pas très poli. J'ai découvert il n'y a pas longtemps les cookies d'eau. Là, c'est un cookie d'eau M&M's. Et je vous ai dit qu'en ce moment, j'avais une petite addiction pour la nourriture. Ça fait un petit moment que je tourne, donc je vais manger ça pendant la vidéo. Désolé. J'ai perdu des petits morceaux de chocolat.
Bonjour Ben, bonjour les internets, je m'appelle Dia et je suis psychologue clinicienne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est une crise d'angoisse et une attaque de panique. Alors une crise d'angoisse, je pense qu'on en a tous fait, c'est un moment intense de stress, mais dont on peut identifier les causes. Donc ça peut être lié au travail, aux études, aux examens ou encore au confinement. Et une attaque de panique, c'est une montée soudaine de peur, mais dont on est incapable, sur le moment, d'identifier la cause. Et en général, les signes, ça va être nausée, vertige, des difficultés à respirer. On a l'impression que le monde est en train de s'effondrer, qu'on ne contrôle plus rien et qu'on va mourir. En tout cas, pour y remédier dans les deux cas, on peut consulter un psychiatre et ou un psychologue. Donc le travail du psychiatre, lui, bon, c'est aussi de vous écouter, hein, tout autant qu'un psychologue, mais il peut vous prescrire des médicaments pour calmer un tout petit peu l'anxiété. Le travail du psychologue, lui, quand vous avez des crises d'angoisse, il va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Vous pourrez exprimer vos émotions, vous pouvez relâcher un tout petit peu la pression. Cet espace de parole peut vous permettre aussi de diminuer cette anxiété. En cas d'attaque de panique, là, le psychologue, lui, il va essayer de vous aider à trouver les causes qui déclenchent l'attaque de panique et donc de prévenir d'éventuels autres épisodes d'attaque de panique. La deuxième chose qui est intéressante à faire, c'est un travail de respiration. Donc vous pouvez inspirer très lentement par le nez, expirer très lentement par la bouche, essayer de visualiser l'air qui circule dans votre corps pendant plusieurs minutes, puis vous dire que tout va bien se passer aussi. Et pourquoi pas s'inscrire à un cours de yoga qui va vous apprendre à respirer via la méditation, ça aide pas mal. Enfin, il est primordial d'avoir une hygiène de vie suffisamment bonne. Donc effectivement, il faut quand même bien manger. Vous ne privez pas non plus de chocolat et de chips. Hein. Faut aussi se faire plaisir. Mais il faut aussi avoir une activité physique parce que une activité physique régulière, ça aide à diminuer l'anxiété. Et il faut également aussi avoir un bon sommeil. Donc il faut se coucher à 22h et avoir entre 7 et 8 heures de sommeil. Le manque de sommeil ou un mauvais sommeil a un impact considérable en fait sur votre humeur. Moins vous dormez bien et plus vous êtes susceptible d'être anxieux et donc d'avoir des crises d'angoisse. J'aimerais finir sur quelque chose d'assez important. Diminuer les médias, que ce soit à la télé, les infos, parce que c'est très anxiogène, ou Instagram. Prenez du recul un peu là-dessus. J'espère en tout cas que vous allez bien, que ça va le faire. N'hésitez absolument pas à consulter un professionnel de la santé qui peut vous aider. C'est absolument pas une honte de demander de l'aide et c'est loin d'être un signe de faiblesse non plus.
Merci beaucoup Dia, franchement j'ai appris grave de trucs. Déjà qu'on peut manger des cookies d'eau, on n'en abuse pas, mais les cookies d'eau c'est ok. Bon, beaucoup d'entre vous savent que j'ai une émission qui s'appelle Insomnie. Si je l'appelais comme ça, c'est pas pour rien, c'est que évidemment j'ai quelques troubles du sommeil et c'est clair que le sommeil impacte énormément mes humeurs et la façon dont je dors d'une nuit à l'autre, ça va clairement impacter la journée en elle-même, si je vais être content, si je vais pas être content, si je vais me mettre plus facilement en colère ou pas. Sur la partie média, c'est clair, la partie média et même Instagram, réseaux sociaux et compagnie, je crois que ça exacerbe. J'ai l'impression que notre cerveau il est pas fait pour le trop d'informations, une espèce de répétition d'informations négatives constantes, ou comme le disait Juju, le truc de d'être sur Instagram et de se comparer constamment aux autres, je crois vraiment que ça a un impact hyper négatif sur notre cerveau sur le long terme. Donc franchement, déconnecté, moi j'ai fait le test et ça me fait énormément de bien. Sur le premier confinement, je regardais des news tous les jours sur le coronavirus, de me dire ok, on en est où, etc. Comme c'était un peu nouveau, c'était hyper stressant, on savait pas comment ça allait évoluer. Depuis, vraiment, je me suis limité énormément. Je regarde les vidéos de Hugo Décrypte. J'ai 10 minutes par jour où j'ai un brief des actus, comme ça je suis sûr de savoir à peu près, de pas manquer une actualité primordiale. Et puis Hugo, c'est la famille évidemment, donc on soutient, tu connais. Donc voilà, je me limite à quelques médias, quand même des médias différents pour pouvoir recouper les sources et pas avoir qu'une seule ligne éditoriale d'information. Mais franchement, essayer de déconnecter ne serait-ce qu'une journée des applications, des réseaux sociaux et des médias, à la fin de la journée, en général, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas loupé tant de choses que ça. En tout cas, pas des choses si importantes. Le dernier point dont parle Dia est trop important pour moi aussi, c'est la honte d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Pour recevoir énormément de témoignages de gens, il y a un vrai problème, encore plus chez les mecs. Il y a un truc de pudeur extrême et d'aveu de faiblesse énorme de dire « Non mais moi, je sais contrôler mes émotions, j'ai pas de problème, c'est ok. Je me suffis à moi-même pour réguler tout ça. » Franchement, il y a tellement zéro honte à aller voir quelqu'un pour vous aider juste à avoir du recul. En fait, avoir du recul sur soi-même, c'est vraiment pas évident. Donc n'ayez pas peur de parler de vos problèmes, extériorisez-les. Ne les gardez pas ici, dans vos pectoraux. Et on a tous des exemples dans notre entourage, que ce soit familial, des amis, etc. De gens qui ont gardé des choses pour eux beaucoup trop longtemps. Et malheureusement, ça explose beaucoup plus tard. Allez, on se reprend quelques vocaux pour savoir comment vous allez vraiment. Je suis très proche, là.
C'est une question qui, je sais pas, y répondre sincèrement, tu sais, ça, c'est toujours un truc qui est bizarre parce que tu peux jamais répondre vraiment « ouais, ça va pas du tout ». Mais le contexte s'y prête un peu à se demander comment je vais. Déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un de très solitaire et peu sociable. Et du coup, me retrouver seul avec moi-même, c'était la grosse crainte du premier confinement. J'avais l'impression d'avoir utilisé, pendant le premier confinement, toutes les solutions possibles pour m'aider par moi-même. Et en fait, je pouvais plus faire semblant, j'étais beaucoup trop fatigué. Et, je pouvais plus faire semblant, voilà. Je pouvais plus me cacher et me dire « eh si, ça va », alors qu'en fait, non, ça va pas. Et ouais, et puis je pense que tout le monde est à peu près au courant. Et puis, tu sais, c'est un truc un peu... Faut pas trop le dire. Je suis bizarre et dépressif, mais on n'en parle pas. Du coup, depuis le mois de juin, je vois un psy, une psy. Et j'ai des séances d'abord toutes les semaines, maintenant toutes les trois semaines. Et ça va mieux. Ça m'a permis de poser des mots, de pouvoir me libérer de certaines choses. Et justement, voilà, lui dire, j'ai l'impression de le cerveau qui tourne en permanence. Et elle m'a conseillé un bouquin qui s'appelle « Je pense trop ». Et en fait, j'avais l'impression de lire un livre sur moi. Donc, hypersensibilité, hyper émotivité, tout conscientiser. Et c'est un travail qui est hyper fatigant de toujours tout anticiper, de vraiment pas profiter du moment. Donc, c'est un truc sur lequel je travaille depuis quelques mois et qui m'a permis de mieux vivre le deuxième confinement. Ma psy me dit souvent qu'il faut apprécier la chose et tu vois, se laisser un peu embarquer là-dedans pour essayer de la confronter. Donc, c'est ce que j'essaie de faire.
Si vous voyez un psy, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que ça vous apporte. Pour les gens qui pourraient se dire encore, c'est pas vraiment pour moi, je vois pas ce que ça pourrait m'apporter de plus. Franchement, vos expériences m'intéressent. Et je vous rappelle, il y a toujours Nightline que vous pouvez appeler toute la nuit, en chat ou par téléphone. Ça peut être une première étape de vouloir discuter avec quelqu'un qui est pas forcément psychologue, mais qui est formé à écouter des gens et à trouver des solutions. Ça peut être une première étape pour vous dire, ok, je parle à quelqu'un, j'extériorise, et après, est-ce que j'ai besoin ou pas d'aller voir quelqu'un pour faire un vrai travail de fond. Les amis, je sais pas depuis combien de temps on est là, moi ça fait un petit moment que je tourne. Écoutons-nous un dernier vocal, et après j'ai une surprise de fin.
Salut Ben. Ouais, bah moi ça va pas ouf. J'ai perdu 5 personnes, 5 proches ces 2 dernières années et demie. Ma grand-mère, un grand-oncle, une grande-tante, un ami proche à moi qui avait des ans de moins que moi, et ma mère qui est décédée une semaine avant le premier confinement. Premier confinement, c'était pas ouf, pas mal d'anxiété. Cet été, c'était reparti bien, j'avais recommencé à capter des potes, j'avais trouvé un peu de boulot et j'avais trouvé une fille géniale qui me plaisait beaucoup et avec laquelle on avait super bien accroché. Et vu que j'étais pas prêt avec elle non plus, bah ça s'est arrêté là juste avant le deuxième confinement. Du coup, le deuxième confinement, c'est pas mal de solitude. Ce qui est dur aussi, je rajouterais, c'est que, point de vue solitude, c'est que bah déjà, en fait, quand t'as pas mal de problèmes, les gens savent pas trop comment le prendre, comment le gérer, quoi te dire, etc. Et du coup, une sorte de mécanisme de défense où... ils vont un peu s'éloigner de toi. Moi, quand j'ai annoncé à vraiment une de mes meilleures amies que ma mère était décédée, elle a vu mon message dans les 5 minutes et puis elle m'a toujours pas répondu. C'était donc en mars dernier. Et surtout avec tout ce qui se passe maintenant, en fait, les gens ont tendance à beaucoup se refermer sur eux-mêmes. Les couples, ils restent en couple. Pour terminer sur une note un peu plus positive, je dirais que ouais, j'arrive à voir quand même ce que m'apporte chacun de ces moments difficiles et à quel point ça peut me faire grandir, en fait. Enfin, ça, chaque chose met en avant, en fait, un problème ou quelque chose qui est important pour moi, auquel je tiens. Et une fois que les choses se seront tassées, à mon avis, j'aurais vraiment, vraiment beaucoup grandi, quoi. Je vois déjà qu'il y a certaines choses que j'ai captées que je pense que j'aurais jamais capté, en fait, si tous ces trucs-là, ça m'était pas arrivé, tout simplement, en fait. Alors bon, est-ce que j'aurais préféré que ça ne m'arrive pas ou pas, je sais pas, mais là, pour l'instant, c'est arrivé, et j'essaie d'en tirer du positif, quoi.
Force à toi, et force à tous les gens qui m'ont dit qu'ils avaient perdu des proches, il y en a eu énormément. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que la vie fonctionne par cycle et par vague. Je sais que souvent, quand il m'arrive un truc négatif, souvent ça va attirer d'autres trucs négatifs et je vais avoir plein de merde, même quand c'est des trucs qui me concernent pas et sur lesquels je peux pas agir. Ce que je me dis maintenant et d'expérience, c'est que souvent quand je rentre dans un cycle un peu merdique, Je sais que c'est pas comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Là où quand j'étais adolescent, j'avais l'impression que genre, je me disais, ah ok, donc là en fait, j'ai passé une très belle vie, mais là, à 16 ans, je rentre dans le cycle jusqu'à la fin de ma vie merdique. Bah j'espère que j'ai bien profité, parce que là, la vie va être à chier. Et en fait, non, c'est vraiment des phases. Alors déjà, il y a un truc, c'est la perception qu'on a des choses. Quand il nous arrive beaucoup de choses négatives, on a beaucoup de mal à voir ce qui nous entoure de positif, alors qu'il n'existe pas moins. Mais également, il y a la lumière au bout du tunnel, et la plupart du temps, on apprend tout ça. Et on n'est pas sur des cycles jusqu'à la fin de notre vie. Donc vous allez avoir des moments positifs derrière. Les amis, ça m'a fait grave plaisir cette vidéo. Dites-moi si vous avez kiffé qu'on essaie de pas en refaire un dans 8-9 mois. Encore un grand merci à Nightline qui est partenaire de cette vidéo et qui, en plus juste d'être partenaire et de mettre de la moulaga et de me permettre de moi vivre, de vous proposer un contenu aussi long, aussi produit, d'avoir mon équipe qui travaille avec moi derrière, bah je trouve qu'ils répondent à un vrai besoin qui est clairement en rapport avec ce qu'on s'est dit là. Soyez à l'écoute de vos proches, demandez-leur comment ils vont vraiment et je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de pas savoir comment apporter des solutions. La plupart du temps c'est ok mais on va me dire ça, je sais pas comment réagir, je suis pas formé pour trouver des vraies solutions. Sauf que la première étape quand on a des problèmes, c'est pas de trouver des solutions, c'est d'avoir une oreille attentive et d'avoir des gens présents pour nous. Donc soyez juste présents, soyez l'oreille attentive de vos proches, et franchement, c'est déjà une étape énorme. Je vous laisse avec une surprise. La personne a voulu rester anonyme, mais franchement, si vous suivez ma chaîne, vous savez qui c'est. Je vous laisse donc avec ce dernier vocal, c'était un plaisir de faire cette émission-là avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, dites aux gens que vous les aimez, et à dimanche prochain. Salut!
Salut Benji, écoute, tout d'abord merci. Merci mec pour ce que tu fais, tes émissions, elles sont chamées. Alors en ce qui me concerne, je pète la forme. La vie c'est dur, j'en peux plus mec. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. La plénitude, la quiétude, la paix dans l'âme, l'alignement des astres, l'équilibre. En quelque sorte mec, je suis tellement heureux. L'autre jour, j'ai croisé le bonheur, il m'a dit « Waouh, 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 mec, calme-toi, t'abuses, même moi, je suis pas aussi heureux que toi », alors que je lui dis « Waouh, mec, t'étais où ? T'es au courant que tout le monde te cherche ? Viens me faire un câlin, bonheur, viens me faire... Bonheur ! Bonheur ! Bonheur ! »
Eh bien, écoute, cher Benji, ça va. Parfois, ça va bien, parfois, ça va très bien, parfois, ça va bof, bof, parfois, ça va pas du tout bien. Parfois ça va bien, puis bof bof, puis re-bien. J'arrive à me créer une espèce d'équilibre intérieur dans tout ce marasme. Et parfois tout me paraît extrêmement lourd. Lourd mec, et fatigant. C'est dur d'aller bien, de se protéger avec tout ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression qu'on est tous toutes et tous autour d'une table pour jouer aux cartes. Personne connaît les règles du jeu, mais personne n'ose dire qu'il connaît pas les règles. Du coup, on est tous là à faire semblant de savoir jouer. Il y en a un qui aimerait bien jouer et qui a pas de carte. On lui dit, vas-y, joue ça, toi. D'accord, mais moi, j'ai pas de carte. Joue ! D'autres qui sont persuadés de connaître les vraies règles. D'autres qui pensent connaître les vraies règles, encore plus vraies que vraies. Parce que tout est un mensonge et qu'en fait, les vraies règles, c'est pas les règles que tu crois être les règles. Il y en a pour qui il est hors de question de jouer avec des cartes noires. Il y en a qui jouent qu'avec leur roi de pique. Il y en a qui se servent jamais de leur dame de cœur. D'autres qui n'ont que des cartes Joker dans les mains. Il y en a qui ont affilé des dominos à la place des cartes. D'autres qui pensent que le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de cartes possible dans les mains. Ils prennent un maximum de cartes, donnent jamais rien à personne. Ce sont les mêmes qui, toutes les 5 minutes, lancent des « Mais c'était à moi de jouer, Il y a ceux qui parfois disent « C'est un peu de la merde ce jeu, non ?» Mais personne n'a l'air de les écouter. Et cette partie de cartes, je l'imagine avoir lieu dans un train d'époque, un peu avec une déco à la Titanic dedans, un train qui va très 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 vite, il va genre à 750 km/h alors qu'il est censé aller à 82, donc les bouteilles du bar elles s'explosent par terre, les chaises s'éclatent les unes contre les autres sur les parois du train, mais on est beaucoup trop concentré à jouer pour s'apercevoir que c'est le chaos. Ça n'empêche que régulièrement des joueurs se retrouvent pris dans ce tourbillon, bam! Ils rebondissent de mur en mur, du sol au plafond, mais ça gêne pas les autres dans leur partie. Ce train, donc, il va beaucoup trop vite. Et il tourne en rond, un peu comme s'il faisait le tour du périph', mais tout le temps, et sans arrêt, à 750 km/h. De toute façon, on a oublié où on voulait aller. Et puis on se dit que c'est une chance d'être monté à bord. Il n'y a pas de raison de descendre. Pour conclure, j'aimerais faire un souhait. Ce que je nous souhaite, c'est d'admettre qu'on n'a jamais su à quoi on jouait. Et c'est pas grave, je souhaite que chacun de nous puisse poser les cartes sur la table. Venez, on change de jeu. Venez, on casse le moteur du train. Venez, on descend du train, juste pour se dégourdir les jambes, pique-niquer un peu. Tout en gardant les gestes barrières, bien sûr, en attendant qu'on puisse se faire des accolades, des bisous, des tapotis sur l'épaule, des bises, et plus, si affinité. Venez, on se pose des questions, calmement. Venez, on se demande si on a vraiment besoin de remonter à bord de ce train. Venez, on joue à autre chose.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.